raté, Véro. Il est pas 12h12.
Non, mais il est midi 10.
Et on n'est pas à l'apéro.
Non, on est juste pour la midinale.
En direct, sur Radio Bartas.
Sur le 107.
C'est parti. Pour ceux qui préfèrent la ZIC, rebranchez-vous à 13h, parce que de 12h10 jusqu'à 13h, c'est les midinales en direct sur Radio Bartas. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas. Oui, vous êtes bien sur Radio Bartas, c'est un nouveau créneau en direct, le vendredi à partir de 12h10. Et pour cette première, je suis en compagnie de Yannick, bonjour.
Salut.
Et tu es mon premier invité de ces midinales, et comme le veut la coutume, que tu sois le parrain de cette midinale, tu veux bien?
Eh bah oui, comme ça je peux venir plus souvent. Exact. Et c'est à l'heure où je peux venir.
Ça veut dire évidemment que tu viens, que tu interviens tout l'été, quand tu veux, que tu proposes la musique que tu veux, les sujets que tu veux. Voilà, ça fait un grand plaisir de commencer cette midinale avec toi. On va parler d'eau dans un instant. Puis en deuxième partie d'émission, évidemment, il y aura les annonces du week-end maintenant en direct. Véro nous rejoindra. Il y aura de la musique un peu, hein. C'est toi qui as fait la programmation musicale, Yannick. Bah, c'est parti pour cette première midinale. C'est fichtrement bien foutu, non, Yannick ?
Eh ouais, bravo. Enfin une heure où on peut écouter.
J'espère que vous êtes bien installés. Yannick, tu es donc chargé d'eau pour le Parc National des Cévennes. Et on va évidemment commencer par la crue d'il y a deux semaines. On a eu chaud, hein. Bon, et toi, pas de bol, tu l'as raté. Un peu les boules quand même.
Eh oui, j'étais en vacances, c'est bête.
Ouais, écoute, espérons quand même qu'il n'y en aura pas trop souvent. Alors, il paraît que c'était un phénomène qui ne s'était pas vu depuis... moi, j'avais 1917, mais tu m'as expliqué hors antenne que c'était un peu différent.
Ouais, le principe, c'est que ce n'était pas arrivé à cette période de l'année depuis au moins une quarantaine d'années. C'est pas un phénomène exceptionnel, mais d'habitude, on les a plutôt au septembre-octobre, à l'automne, et pas au printemps.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer, donc toi, tu me disais aussi qu'on l'avait quand même prévu, mais limite, il devait y avoir 40 mm d'eau, il y en a eu 400, enfin, c'est 10 fois plus, c'est juste énorme. Comment ça se fait que c'est arrivé comme ça? C'est un phénomène complètement fou.
Ah bah, c'est le phénomène classique d'automne, des épisodes cévenols qu'on explique toujours avec le réchauffement de la Méditerranée, l'humidité qui vient taper dans les Cévennes, dans la plaine du Gard. Là, il a fait très chaud au printemps. On est un peu dans des épisodes perturbés au niveau climatique, on va dire ça comme ça.
Tu m'étonnes.
C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude, et c'est ce qui se passe classiquement à l'automne, c'est passé au printemps.
C'est fou. Alors, la question est simple et je pense que beaucoup de monde se la pose. En tout cas, moi, je me la pose. Est-ce que les nappes, les sources ont pu se remplir ?
Pas vraiment. C'est pas les crues ou ces gros épisodes pluvieux qui remplissent et qui amènent de l'eau sur la durée, puisque là, c'est un peu l'effet chasse d'eau, on peut parler vraiment ça. Ah, ouais. Ça met un gros coup de chasse. Alors, en ce moment, il y a de l'eau partout. Vous allez marcher, toutes les zones humides et débordent et tout, mais d'ici, on va vite revenir à la normale. Et c'est pas ce qui remplit globalement, qui humidifie tous les sols et qui remplit les réserves, quand on parle de réserves, parce qu'on n'en a pas vraiment, ou peut-être pas. Là, c'est un effet chasse d'eau, ça fait un grand ménage, ça amène plein d'eau pour quelques temps. Bon, ça nous a sauvé la période du printemps. Il pleuvait déjà un peu avant, alors que pendant le confinement, on a eu un super temps, c'était l'été, et puis tout le monde a fait son jardin, et puis là, depuis, hop, ça a calmé un peu tout. Là, c'est hop, on a un effet chasse d'eau, c'est pour ça qu'on a des rivières magnifiques, avec des couleurs qu'on voit jamais, ben, qu'on voit plutôt l'hiver ou à l'automne, qu'on voit jamais à cette période. On verra d'ici 3 semaines. Maintenant, il faut qu'il pleuve régulièrement pour qu'on maintienne des niveaux d'eau, comme d'habitude.
Là, c'est sûr que ça a duré à peine 8 heures, hein. C'est dingue, hein. C'est monté, descendu en très très peu de temps. Alors, les instruments de mesure ont dû quand même prendre un sacré coup, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut mesurer le débit qu'il y a eu là sur ces 8 heures en fait ?
C'est toujours très difficile à évaluer parce qu'on est dans des... là, on a pris 4 mètres de hauteur, 4 à 6 mètres de haut par endroit, et nos instruments de mesure qui sont au centimètre près quand ils ont 4 mètres d'un coup... C'est pas très adapté, pas très précis, donc on essaye d'autres méthodes. Il y a des méthodes en ce moment, et moi j'étais pas là, donc j'ai pas pu le tester, par des films, en fait, avec les appareils photo modernes qui font des films, en se mettant sur les ponts et en filmant, ils arrivent avec des analyses d'images, d'avoir la vitesse de déplacement de l'eau, avec les arbres, les troncs d'arbres qui peuvent passer, donc on a la vitesse de l'eau, et comme on connaît le profil en travers du cours d'eau, on a la hauteur, ben, on peut estimer le débit grâce à ça. Et c'est l'école des mines d'Alès là, qui développe ça sur la gestion des crues, liée à toutes les crues dans le Gard, hein, essentiellement. Donc ça peut marcher chez nous. Et là, ils essayent un nouveau truc. Donc moi, j'attends les résultats. Je n'ai pas le temps d'y aller avec eux. Ce qu'ils appellent une méthode dite REX. Alors, je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était.
Mais REX.
REX, E-R-X. Et c'est mesurer les hauteurs de crues avec les dépôts en bordure de rivière qu'on retrouve bien en ce moment. Et comme il n'a pas plu depuis, tu les vois assez facilement. Et de là, du coup, on a la hauteur de crue jusque où l'eau est arrivée. Donc, on a la section sur laquelle la largeur où c'est passé avec la hauteur. Et là, on peut estimer un débit. Donc, ils sont en train de le faire dans les Cévennes où là, ils ont eu des grosses surprises. Mais c'est pas arrivé en crue en bas, mais sur les parties cévenoles de notre secteur là qu'on connaît, haute. Il y a eu des gros débits et ils vont essayer du côté du pont de Montvert voir ce que ça peut donner. Avec les références des ponts, en plus on a les ponts, donc on connaît ce qui passe sous un pont et il suffit d'avoir la hauteur.
Au-delà des dégâts matériels, on assure forcément tout notre soutien à ceux qui ont pu en avoir, évidemment. Est-ce que c'est bon pour les rivières en fait, de monter comme ça en crue ?
C'est toujours, tout est bon pour les rivières. À partir du moment où c'est un phénomène naturel, c'est toujours très bon. Il y a des impacts sur l'activité humaine, ça c'est sans commune mesure et c'est difficile pour les gens. Après, habiter à bord d'un cours d'eau, c'est toujours le risque qu'on prend. Pour la nature, avoir une dynamique, il y a eu des dégâts, il y a des arbres qui partent, mais les arbres qui sont partis, c'est comme les tempêtes de vent dans les forêts, les arbres ils tombent, tant pis. Il y en aura d'autres qui peuvent repousser. La faune, généralement, elle peut se déplacer. Alors c'est pour les petits, s'il y avait tous les petits, parce qu'on est une période où il y a les petits qui arrivent, un phénomène de crue rapide comme ça, ça a pu faire des dégâts sur les portées de l'année, que ce soit les poissons, ou les loutres, ou les castors, les grenouilles, tous ces trucs-là. Ça, on le verra après. Mais comme on a des milieux en bon état, d'une bonne dynamique, moi je ne suis pas inquiet. Et puis ça fait un grand nettoyage.
Ça nous rappelle aussi à l'humilité face à tout ça, et puis peut-être certaines, entre guillemets, constructions mal placées, mal foutues. Fin...
Comme d'habitude, comme à chaque phénomène un peu extrême. Là, il n'était pas extrême, il était important, mais à une période de l'année où on n'a pas l'habitude, mais il n'était pas extrême tel qu'on a pu en connaître. Ça relativise. Là, je plains les maraîchers, tous les espaces où on cultive, qui sont les espaces de développement de crues, parce que c'est les seuls secteurs plats qu'on a dans nos secteurs. Et là, ils ont pris cher et c'était pas du tout la période où ça arrive d'habitude. Et certains maraîchers n'ont plus rien.
C'est vrai que c'est fou. Donc, on va parler d'eau. Ça me semble toujours intéressant. Au début de l'été, quand les sécheresses vont arriver, on va reparler et redire encore des choses, évidemment, qu'on nous ramasse de temps en temps. Mais ça fait quand même pas de mal parce que l'eau est un bien précieux. Toi, exactement, quelles sont tes missions au sein du parc national ?
C'est préserver la ressource, le milieu aquatique tout en le conciliant avec les usages. Donc c'est comme la plupart des missions du parc, c'est préserver l'environnement avec les usages qui sont associés. Donc on est un peu toujours sur un fil en équilibre entre l'environnement et les usages socio-économiques, parce que le plus grand dégrade, qui pose le plus de dégradation sur les milieux naturels, c'est la société humaine. On est un peu trop développé ou on est un peu trop nombreux par rapport à la capacité de notre planète, généralement. Donc c'est essayer de trouver un juste équilibre où notre mode de vie et notre façon de vivre impactent le moins possible nos milieux et qu'ils puissent continuer à se maintenir.
J'ai reçu Quentin qui, lui, travaille pour le parc régional du Jura. Il est chargé de mission eau, un peu comme
j'ai
toi.
J'ai entendu.
Ouais, voilà. Et donc, il expliquait quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que des rivières qui ont été impactées par l'humain, en fait, ils essayent, avec l'intervention de l'humain, de la rendre plus sauvage, entre guillemets, d'essayer de lui rendre son côté naturel. Est-ce que ça existe, ce genre de mission au parc national ?
On le fait pour des missions ponctuelles, mais c'est ce qu'on appelle les espaces de restauration ou réhabilitation ou renaturation. Il y a toute une série de termes divers et variés. Mais en gros, c'est essayer de retrouver une dynamique plutôt naturelle plutôt qu'une dynamique humaine sur un milieu sur un pas de temps qui est très différent. C'est ça le vrai challenge entre nous, êtres humains, c'est que le pas de temps de la nature, il est... x5 ou x6 par rapport à notre pas de temps d'être humain, donc même des actions qu'on peut faire. Là, les dernières actions visuelles, qui ne sont pas forcément bien accueillies, mais qui marchent, que nous, on a pu mener Parc National sur l'eau, ça a été les suppressions des barrages, qui n'avaient plus forcément d'usage, pour rendre la rivière sa dynamique naturelle sans des ouvrages qui bloquent le transport solide, les poissons entre l'amont et l'aval, et c'est là ce qu'on appelle l'effacement des seuils ou l'aménagement des barrages, parce qu'on peut aussi pas les effacer mais seulement les aménager. On travaille sur la réhabilitation des zones humides, qui est un milieu très riche, très dynamique, et qu'on a beaucoup détruit depuis des années à l'échelle de la planète, c'est l'habitat naturel qui a le plus disparu en France ces dernières années.
Ouais, c'est fou. Hein. Justement, puisqu'on parlait de barrages, j'ai appris que le Tarn avait postulé pour passer en rivière label rivière sauvage, c'est ça ?
C'est en cours de discussion et c'est avec le syndicat de rivières du Tarn-Amont qui est basé actuellement à Saint-Enimy et qui travaille de Millau jusque qui est des sources du Tarn jusqu'à l'aval de Millau. Et il y avait 3 sites potentiels à discuter pour passer en site et label. Label Rivière Sauvage, parce que c'est site Rivière Sauvage, en fait.
Et c'est quoi les avantages ? Parce qu'en fait, on peut dire, voilà, uniquement cette partie-là ou cette partie-là du Tarn serait Rivière Sauvage, en fait.
Oui, on travaille sur des sections qui font des linéaires qui font minimum 10 km. Après, c'est pas beaucoup, c'est pas forcément très intéressant d'avoir qu'un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Ouais. L'enjeu du label, avec lequel je travaille, moi, depuis qu'il existe, puisque je fais partie du conseil scientifique de ce label-là, c'est sur des longs tronçons, et l'enjeu, justement, c'est les ouvrages transversaux, et d'une rivière la plus naturelle possible. Mais ce qui est bloquant dans l'obtention du label, et bloquant de manière dure, c'est les ouvrages transversaux. Ici, on en a eu un à proximité, c'est le Galaison, qui a été labellisé depuis 2 ans. Et là, qui se travaille, c'était ou la section du Haut-Tarn, on va dire des sources jusque à Saliège. Mais il y a des difficultés. C'est une volonté locale. Il n'y en a pas forcément. Et du coup, ce qui est plus retenu pour l'instant, c'est la Mi-Meinte. La Mi-Meinte, des sources de la Mi-Meinte jusqu'à la confluence avec le Tarnon, où en la parcourant, globalement, elle répond à peu près à tous les critères. Le vrai souci, c'est sa proximité avec la nationale. Parce que dans ce label, c'est les joyaux des rivières en France. Donc c'est très exigeant, mais il impose rien. C'est vraiment, vous voulez montrer qu'on a une rivière magnifique qui est bien gérée et qui fonctionne le plus naturellement possible, sans imposer rien du tout aux gestionnaires de la rivière, aux collectivités, aux particuliers. C'est seulement un engagement moral, mais comme peut être le patrimoine de l'UNESCO, ils ne vous imposent pas forcément, ils n'imposent pas des choses. C'est une volonté de reconnaître qu'on a un milieu magnifique. Et le but, c'est d'en avoir peu. Donc d'être très exigeant sur les critères pour l'obtenir.
Je ne les ai pas comptés, j'avoue, mais il y a à peu près 430 cours d'eau en Lozère, donc qui partent de la Lozère. Hein. Voilà, on appelle la Lozère le château d'eau de la France. Est-ce qu'avec les fortes chaleurs, le réchauffement climatique pourrait faire que certains disparaissent définitivement ?
C'est jamais du définitif. Là, on a ce qu'on appelle la multiplication des phénomènes extrêmes, donc des crues, beaucoup de pluie, beaucoup de crues, mais aussi des sécheresses plus rapide, plus longue, plus régulière. Donc les cours d'eau, ils vont pas disparaître intégralement de manière naturelle et pas avec le réchauffement climatique. Ben, on n'en a pas encore vu à l'échelle. Ceux qui ont disparu actuellement, c'est que l'être humain a prélevé beaucoup d'eau. Alors les grandes images, hein, c'est le Colorado en ce moment, qu'il faut imaginer que le Colorado, il va plus jusqu'à la mer. Parce qu'on prélève tout du long et il n'y a plus assez d'eau pour l'alimenter c'est le golfe... dans le Pacifique, où il fait chaud, on est à moitié dans un désert, il n'y a plus assez d'eau qui arrive jusqu'au delta, donc il ne va plus à la mer. Là, il a disparu.
Ah, c'est fou.
Mais c'est surtout l'eau qu'on lui a enlevée avant qui permet de plus y aller. Nous, on va avoir des rivières qui peuvent s'assécher plus ou plus longtemps, mais dès qu'il va repleuvoir, elles vont redémarrer. Donc ça va être des périodes. Donc c'est plus pour la faune et la flore, le milieu en tant que tel, où il va falloir qu'il s'adapte à du semi-aride, par exemple. Et ben, pour l'instant, notre faune et notre flore, elle n'est pas adaptée au milieu semi-aride.
Votre boulot aussi, donc, c'est tracer les cours d'eau. Hein, pour ça, tu nous en avais déjà parlé. Et est-ce que vous découvrez régulièrement des nouvelles sources ou des nouveaux chemins de l'eau ?
Bah, nouveau, oui, c'est pas nouveau, c'est qu'on les. Comment dire, c'est à force de connaître le territoire, on se dit, bah, tiens, là, j'y étais jamais passé, et là, il y a plus d'eau qu'avant, où il n'y en avait pas. C'est de la pratique territorial avec les gens et discuter. Après, on travaille sur l'eau souterraine en ce moment sous le Cosmégean, mais ça, c'est autre chose. C'est un vrai travail sur l'eau souterraine qu'on connaissait pas, donc c'est tant mieux. Et là, on est en train de le finir, donc on a plein de choses à dire. pendant quelques... Je pourrais en parler quelques heures. Mais non, c'est pas des nouveaux. C'est, bah, on l'avait pas vu. Et là, c'est toute la culture et la connaissance locale qui nous permet de mieux appréhender. Moi, maintenant, ça fait quelques années que je suis là. Donc, il y a des secteurs que je connais très bien. Et même au bout de plus de 10 ans au parc, il y a des secteurs où j'ai dû aller deux fois ou jamais.
Ouais, mais ça, c'est parce que c'est énorme. C'est le territoire.
C'est tout le territoire du parc. Après, c'est vraiment, c'est quand vous vous promenez, comme je voyais là en allant sur le terrain cette semaine avec des habitants d'un petit hameau du Mont-Lozère, ils regardaient beaucoup leurs chaussures, et tant mieux, pour voir tel criquet, telle petite fleur, telle petite chose. Et moi, je suis plutôt au bruit quand ça fait chloc, chloc, chloc. C'est ah, là, je suis dans ma zone humide. Parce que je ne suis pas très bon en botanique, à part quand c'est aquatique. Et au bruit, en ce moment, c'est très... Vous le savez tout de suite, si vous êtes dans une zone humide, après les phénomènes de pluie, là, tout dégorge un peu d'eau. Et bien, au bruit sur vos chaussures, vous savez à peu près dans quel milieu vous êtes, ce qui est assez marrant.
C'est clair. Est-ce qu'une source, au même titre qu'une forêt, peut être privée ?
Une source peut être privée, mais vous n'êtes pas propriétaire de l'eau. C'est un vrai problème juridique. C'est...
Ah ouais ?
C'est... l'eau, c'est un des... d'une notion des plus compliquées en droit. Alors là, j'ai discuté avec une stagiaire qui travaille sur l'oignon doux et les béales et la propriété de l'eau. L'eau, en France, est considérée comme non propriétaire. Vous avez un droit d'usage, mais vous n'êtes pas propriété de l'eau. Mais c'est de l'eau qui coule, qui vient du droit féodal.
Oh.
Donc, et depuis, ça n'a pas beaucoup changé, parce qu'on se base sur des articles du Code civil napoléonien. Et à cette époque-là, il n'y avait pas la science pour lier l'eau souterraine, la relation entre l'eau souterraine et l'eau de rivière. Du coup, vous pouvez être propriétaire d'une source et prélever l'intégralité de la source, mais vous ne pouvez être pas propriétaire d'un cours d'eau. Vous êtes propriétaire du sol, ce qu'on dit du fond, mais vous n'êtes pas propriétaire de l'eau qui coule. Vous pouvez en prendre à considérant que vous ne lésez pas l'usager qui est à l'aval.
Mais alors, c'est antinomique avec le grand patron là, qui a dit il y a quelques années que l'eau était un bien de consommation comme un autre et qu'à ce titre-là, il devait se vendre.
L'eau souterraine, pas l'eau de surface, pas l'eau de rivière. C'est pour ça qu'on a des forages et de l'eau privée, l'eau minérale, tous ces trucs-là. C'est des sources. Là, parce que dans le droit français, c'est dissocié et ça date du Code civil de Napoléon. Et depuis, ça n'a pas été remis à plat. Et à l'époque, les scientifiques ne faisaient pas le lien entre l'eau de source et l'eau de rivière.
Une autre partie de ton boulot, c'est aussi de mesurer. Hein. Tu as tout un tas de petits instruments que tu laisses dans les cours d'eau, si j'ai bien compris. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'eau ?
Et ben là, on est tout perturbé cette année.
Ouais.
Parce que on est comme dans tous les phénomènes naturels ces dernières années. On n'est plus dans les références, on n'est plus dans les normales, dit les normales saisonnières. Et depuis un an, on a toujours le mois le plus chaud jamais enregistré, depuis qu'on enregistre des données. Donc on n'a plus rien de dit normal, on parle de statistiques. Là, en ce moment, il faut attendre que la crue d'il y a 15 jours soit passée. Ça va arriver assez vite, hein, parce qu'on retrouve vite les niveaux. Il suffit de regarder au pied de la radio le Tarnon. On n'a pas l'impression qu'il y a eu une crue.
Ah non, c'est hallucinant. Ouais.
C'est presque le niveau d'avant. Donc d'ici une semaine, on va pouvoir dire si on est dans... Si c'est une année plus ou moins normale ou on part vers une sécheresse. Après, ça va être la météo qui va nous le dire. Mais pour un titre d'information, pendant le confinement, on était en train de préparer les arrêtés sécheresse pour le mois d'avril, de mai et de juin. Bon, fin de confinement, sortie de confinement, il a replu, donc on a respiré, on a pris un peu d'oxygène. On verra début juillet ou le 14 juillet, qu'est-ce qui s'est passé. On est très lié au phénomène rapide. On ne parle pas dans deux ans. C'est est-ce qu'il va pleuvoir dans les 15 prochains jours. Donc dans les trois semaines qui viennent, qu'est-ce qui va se passer.
Alors justement, tu parlais des restrictions, enfin des consignes. Est-ce qu'il y a des consignes claires en termes de restrictions d'eau, sachant que pour les agriculteurs qui ont été impactés par la crue, il y en a eu. Si en plus ils sont impactés par la sécheresse, ça peut poser de sérieux problèmes.
Comme chaque année. Le problème, c'est que la ressource en eau, elle est renouvelable, mais elle n'est pas toujours là quand on veut l'utiliser. Où il y en a moins. Et la période où on en a le plus besoin, c'est là où il y en a toujours moins, comme d'habitude. C'est pour ça que ça cumule la succession de difficultés. Pour l'instant, ça va, mais la ressource en eau est une ressource fragile et finie. Il n'y a pas de renouvellement de l'eau. C'est des choses que je discute avec les collégiens ou les lycéens, où on est un monde fermé, c'est la planète. Il y a un volume qui est fixe, qui ne se renouvelle pas. n'y a pas d'apport d'eau de l'espace et de l'eau qui part dans l'espace, en gros. Donc, on a un volume fini avec un volume disponible pour la vie qui est faible par rapport à l'eau salée et l'eau des glaces. Bon, là, c'est en train de changer avec la fonte des glaces, des glaciers, du pôle nord, pôle sud. Donc, on a des volumes d'eau qui sont en train de changer. Mais sinon, la majorité de l'eau sur Terre, c'est de l'eau salée, donc qui est très peu utilisable pour la vie humaine comme... la vie naturelle, bah, à part dans les mers, mais sur les continents, l'eau salée, on ne peut pas en faire grand-chose. Hein. Donc, le tout, c'est de ne pas en utiliser beaucoup. Le mieux, c'est qu'il faut réduire sa consommation et moins utiliser d'eau pour avoir moins d'eau polluée et d'avoir moins de problèmes de gestion pour pouvoir la rendre repropre. Parce que tout ça, c'est un circuit.
Ouais, c'est sûr. Et justement, en termes de stations d'épuration, ici, en Lozère, on est plutôt bien lotis ou...
bon, par rapport à la population, oui. Tout le problème des stations d'épuration, comme de tous les équipements humains, c'est la densité. Une station d'épuration, ça coûte cher, très très cher. C'est indispensable. Et globalement, depuis 15 ans à peu près que je suis là, on en a construit de plus en plus et on s'occupe de stations d'épuration sur des petits villages où il n'y avait rien. Alors c'était impactant, pas sur le Tarn, mais impacté sur telle section, sous tel village, sur 2-3 km ou 10. Et ben depuis, on en construit. Alors, elles ont toutes, on peut toujours les améliorer, faire mieux, faire plus. Là, on a des soucis parce qu'on découvre que les stations d'épuration ne traitent pas les résidus de médicaments. C'est pas fait pour ça, c'était pas prévu. On ne sait pas faire, ou c'est très très cher. On a des problèmes avec le coronavirus dans les stations d'épuration parce qu'on le retrouve dans les selles humaines. Et ben oui, le corps ne le traite pas forcément. Du coup, on peut le retrouver dans les stations d'épuration. Et longtemps après, dans les boues d'épuration, comme on dit. Donc actuellement, on n'épand plus de boue, ça va tout en centre de retraitement parce qu'on a trouvé du virus dans les boues d'épuration. En fin de traitement, il y a l'eau qui part propre et il reste ce qu'on appelle des boues. En ce moment, c'est tout bloqué, qui est les boues qui servaient d'épandage dans les champs pour apporter comme un engrais. Là, c'est tout bloqué. Et les résidus médicamenteux, c'est la grande blague en ce moment, mais ce n'était pas prévu.
C'est fou.
On ne sait pas faire.
Et ouais, il faut chercher,
faut chercher. La solution, mais... Et là, on a des chercheurs ces derniers temps qui sont en train de monter des protocoles pour se servir des stations d'épuration comme alerte sur des impacts sur la société, comme le coronavirus. Il suffit d'analyser les boues et on voit si la concentration monte ou pas, donc si on a une épidémie qui est en train d'arriver et en train de monter en se basant sur seulement nos rejets.
C'est génial. Enfin, c'est intéressant, je dis pas.
Ah non, après, c'est une façon de le gérer pas en amont, mais à l'aval, et on peut être assez réactif parce que c'est assez simple. Simple. On sait faire quoi maintenant, et on a les indicateurs qui nous disent attention, là, il se passe quelque chose dans la ville qui est en amont.
Donc surtout, et si on revient sur la consommation d'eau, c'est juste faire gaffe quoi. En fait.
Il faut consommer le moins possible parce que la ressource, elle est pas inépuisable.
J'ai reçu Madame le maire il y a 10 jours. Il va y avoir une pelouse synthétique sur le stade. C'est la Comcom qui a décidé. Bon, c'était mon petit os à ronger l'année dernière puisque le stade de foot était arrosé. Je ne sais pas si tu t'y connais, mais il y a besoin de moins d'eau pour du synthétique comme ça.
Eh ben, je suis pas persuadé. Moi, j'attends de voir parce que j'ai pas trouvé la littérature. J'ai pas passé le temps à chercher, mais j'ai des spécialistes de l'eau de sociétés privées qui me disaient qu'une pelouse synthétique demandait autant d'eau qu'une pelouse naturelle. Alors là, tu fais, mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il faudrait que je trouve les analyses. J'ai pas passé le temps de le chercher. Si un jour on me pose plus la question, faut que je la creuse un peu parce que ça m'a vraiment choqué et surpris en disant bah ok, on a plus de pelouse, on a du plastique. En même temps, est-ce que
là,
c'est
mieux ? Apparemment, ce serait des résidus de liège, ce serait pas du pneu.
J'attends de voir.
Ouais. D'accord.
Mais je suis assez. Ça serait vraiment une horreur qu'on doit arroser une pelouse en synthétique. Bah, du liège ou du plastique ou du polystyrène, n'importe quoi. Qu'on doive les arroser. Et moi, les gens de Veolia m'ont dit oui, mais on les arrose.
Waouh. Le temps passe vite et puis dans un instant, il y aura les annonces. Est-ce que tu es prêt pour une petite interview détente ?
Bien sûr.
Allez, on y va, jingle. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Bah ouais, je dois parler français sur cette antenne.
Il s'amuse.
Bah, je suis là pour ça un peu. Allez Yannick, du coup, un livre que tu pourrais conseiller.
Ah bah moi je suis toujours dans mon classique. Alors on va me dire non, mais c'est un classique, moi je reste dans mon Seigneur des Anneaux. Que je lis depuis que j'ai 12 ans. Il a toujours été avec moi. Maintenant, j'en ai bien plus. Et je le traîne toujours avec moi et je le relis régulièrement. Même les films sont magnifiques, mais c'est d'abord le livre. Et ma fille à côté m'engueule à chaque fois parce que je veux pas qu'elle regarde les films avant qu'elle ait lu le livre et ça devient difficile.
Ah, je peux comprendre, hein, ouais, c'est clair. Un film.
Un film, j'ai hésité sur deux. Un où on est d'accord avec ma fille qui est Into the Wild.
Ah ouais.
Qui est un film magnifique, très bien tourné, et en plus ce qui est assez rare que pour moi, qui suis plutôt un lecteur à la base, le film est mieux que le livre. Alors que le livre c'est seulement une enquête journalistique, je m'attendais à une vraie histoire, et en fait c'est une enquête journalistique qui a permis de faire le film, et le film est à tomber par terre. Magnifique, surtout.
C'est vrai, c'est génial, carrément.
Plus la musique adaptée, et l'autre c'est V pour Vendetta.
Ah, c'est marrant, comme Fabien Moutet, directeur du Festival des Tours du Monde.
Et ouais, parce qu'il y a tout là-dedans.
Et il résonne un peu en ce moment, j'ai l'impression.
Ah, tout à fait. Et puis le masque des Anonymous, c'est le masque de ce film-là, qu'ils ont pris dans ce film-là. Et vous trouvez toute la lutte des classes, la notion de dictature, il y a tout. Pour un film qui est passé inaperçu à l'époque, avec des grands acteurs, mais qui est complètement passé inaperçu et qui résonne bien pour le moment, entre les Gilets jaunes, les Anonymous et tout ça, on est en plein dedans.
On va faire une pause musicale juste avant les annonces que Véro nous rejoigne en studio. Et évidemment, c'est toi qui as choisi. Alors, je sais pas, mais je m'en doutais un tout petit peu. Mais bon, t'as choisi quoi ?
Ah, j'ai choisi encore un classique que j'amène à chaque fois, qui est un Renault. Vous allez l'écouter lequel ? Ce sera une surprise.
On se retrouve dans un instant pour les annonces. Restez sur Bartas. On écoute ce qu'a choisi Yannick et il m'a demandé de laisser l'intro.
Bah ouais.
Eh oui.
Lors du 5e congrès du Parti communiste, lorsque le cas Renault fut évoqué devant les dirigeants, Léonid Brejnev déclara « Je ne dirai qu'un mot, ta gueule ». Renault lui répliqua aussitôt très finement « La tienne avant la mienne ». Dès lors, la détente était compromise. En mai 1980, Renault répondit dans la Pravda par un article laconique, je cite, c'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule.
Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui que ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu les pouces, mes gaules et mes feux. Les ringards, les folques, les journaleux. Qui a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée, vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La fin est l'avenir des cons, et l'homme est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc, d'un bistrot des plus cradingues. Et bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau, ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon, je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon je chante pas pour ces blaireaux, et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or, un Olympia pour moi tout seul, qui me feront virer le bord, qui me feront fermer ma gueule.
Moi je m'entends pas.
Dans mes seringues, je ne chanterai que
mais
pour
toi,
mes
dingues,
mes bordels. Où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur cadeau. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber, que j'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne, rien à foutre de la lutte de crasse, tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoi que le noir soit le plus beau. La Marseillaise même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires ça me déglingue, et votre république moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je fous les pieds dans une manif, sans un autre chac ou un cocktail. Allons-y comme à Saint-Lazare, plus de slogans face aux flicards. Mais des fusils, des pavés, des grenades. Je les contre la répression en défilant bastination. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nippeux et aux pousses mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je m'en trouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Valère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc, un d'un bistrot n'est plus cradingue. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.
Welkom bij Radio Bartels.
U luistert naar Radio Bartels.
C'est les annonces.
C'est les annonces.
C'est les annonces.
C'est les annonces.
De
Radio Bartels.
De retour en direct dans le studio de Bartas, c'est l'heure des annonces et oui, nous sommes en direct juste après la midinale maintenant et qui nous a rejoint, les cotons. Salut Véro.
Salut Ben, salut tout le monde, j'ai faim, c'est pas une bonne heure, j'ai faim.
C'est pas une bonne heure, ouais,
j'imagine. Non, c'est très bien.
Bah écoute, hein, au moins, on manquait un peu de direct.
Moi j'en fais jamais d'habitude, hein, donc voilà.
Yannick est encore avec nous, ça va Yannick?
Ah bah ouais, c'est mes premières annonces et en plus on me les fait en direct.
Bah moi je trouve ça génial, tu sais, pour apprendre la G, des fois faut sauter directement à l'eau.
Ouais, voilà. Pas le choix.
Et en plus c'est toi qui commence, on y va direct avec les annonces diverses.
Annonces diverses.
Donc le foyer rural de Quézac Hispaniac, les Petits Cailloux, propose une journée au Jardin du Lien d'Hispaniac. C'est samedi 27 juin à partir de 10h jusqu'à 18h. L'idée est de se retrouver en participant au chantier tout en s'amusant bien sûr. Au programme 10-12h, chantier, plantation, débroussaillage, réparation, il est temps, c'est le printemps. 12h-14h, repas partagé. Et 14h-18h, chantier, plantation, débroussaillage, encore réparation. Les outils seront sur place, par contre pensez au repas partagé et à votre eau, parce qu'il n'y a pas d'eau au Jardin du Lien.
Non. Jusqu'au 28 juin 2020, venez découvrir l'exposition des œuvres de Paulette Bondon au Yonneau, au tribunal de Florac. C'est de 10h à midi et de 15h à 19h. Dans le cadre des 50 ans du parc national des Cévennes, Paulette Bondon au Yonneau, floracoise d'origine et de cœur, exposera dans la salle du tribunal de Florac 45 tableaux, des peintures réalisées à partir de photos prises lors de randonnées avec Florando depuis une vingtaine d'années. Peintre amateur depuis son adolescence, elle utilise la gouache, l'huile et l'acrylique. Les œuvres présentées ont pour unique thème les paysages de Lozère et l'entrée est libre.
Et c'est les 20 ans de la soupe qui se prépare. Et oui, ce sera fin octobre prochain. Et la commission déco recherche du matériel pour créer. Alors, ils recherchent plein de trucs, des tuyaux de poêle, des bouts de grillage, des lampes, des halogènes au chevet, ou même juste des douilles d'ampoule, des vieilles casseroles, des miroirs, des vieilles batteries de voiture, des cadres de tableaux, des restes de clous, vis-boulons ou autres écrous, des torchons de cuisine propres, serviettes de table et si possible colorées ou vintage. Du papier pour lampion, genre papier craft ou papier de soie, des grandes des gros œillets, et si quelqu'un peut prêter le kit pour les mettre, ce serait chouette, merci beaucoup. De la laine, des restes de fil ou câble électrique, de la bande de clôture électrique, celle qui fait 1 cm de largeur minimum, des ampoules LED. Si vous avez tout retenu, vous pouvez me l'envoyer, ce sera un bon jeu concours, ça j'en suis sûr. En tout cas, le prochain atelier déco, c'est le samedi 27, demain donc, place Paul Comte à partir de 10h, et c'est évidemment à Florac.
Toujours dimanche 28 juin de 10h à 17h, journée de la gratuité au relais de l'Espinasse. Cette année, plus que jamais, la journée de la gratuité devait avoir lieu. À partir de 10h, vous pouvez venir chercher, trouver, prendre, emmener ce qui vous plaît, super, et partager boissons et pâtisseries tout au long de la journée, cerise sur le gâteau. Ils vous proposeront une session entretien et traitement des greffes de châtaignier dans le cadre du cycle de formation 2020 pour apprendre à protéger vos greffes de l'endosia. Alors je sais pas ce que c'est.
C'est un petit champignon qui tue le châtaignier en fait.
D'accord, c'est un des qui attaque essentiellement le châtaignier.
Tout à fait.
Le samedi 27 juin 2020, bien sûr, à 10h, vous aurez la deuxième visite de jardin, Philippe et Cécile, qui nous parleront bien sûr de leur jardin aujourd'hui et aussi de comment ils sont arrivés à faire du maraîchage sur ces terres oubliées depuis 80 ans. Sauf météo capricieuse, la visite se fera sur la commune de Saint-Hilaire-de-la-Ville. Comme à l'accoutumée, il vous faut vous inscrire et si possible covoiturer. Votre contact sera Jacques au 06 83 18 33 13. Vous pouvez aussi nous contacter par mail nodestyle. Alors c'est regainfoyerrural@gmail.com.
Et les fêtes de village reviennent pour notre plus grand plaisir. Les samedis 27 et dimanche 28, c'est au Masgros que ça se passe. Alors le samedi, vous avez un après-midi concours de pétanque avec la possibilité de restauration sur place. Le dimanche à 8h, devinez qui revient ? Eh ben, c'est le déjeuner au Tripou, le fameux. Voilà, ça se passe à la salle des fêtes. À midi, vous aurez le verre de l'amitié. Vous aurez la possibilité de vous restaurer saucisses frites. Et à partir de 14h, concours de pétanque en doublette. Les 100€ plus les mises pour les gagnants. Vous aurez des jeux gonflage, des maquillages pour enfants, des balades à dos d'âne, des quilles, etc. À partir de 19h, bal musette avec Laurent Molinari, c'est gratuit. À 20h, vous avez le repas. À 21h, grand bal musette avec Laurent Molinari, toujours lui, c'est gratuit, toujours. Et il y aura de la restauration sur place toute la journée. Waouh!
On est presque arrivé?
Non.
Balade.
C'est beau quand même.
Quand tu veux, Yannick.
Ouais, il faut que je me réveille, c'est quand même tôt. Donc, dimanche 28 juin à 9h30, safari botanique en Terre Sévenole, le Viala à Saint-Michel-de-Dèze. Entre les châtaigniers et les prés, un agent du parc vous propose une balade autour des plantes et de leurs amis les insectes pour mieux les reconnaître. Vos observations et photographies seront bien utiles pour aider la commune à réaliser son atlas de la biodiversité communale. C'est gratuit, mais sur réservation, donc je pense qu'il faut appeler l'office du tourisme ou la commune, ou le parc.
Tout à fait.
Romain vous propose tous les lundis de 8h à 14h, à partir du 22 juin et jusqu'au 14 septembre, une balade photographique de 8 km sur le plateau de l'Hermet. La thématique de ces balades est axée sur la photographie, avec des conseils, des échanges sur cette passion, une prise en main du boîtier pour les débutants. Mais comme son nom l'indique, cette balade abordera aussi le thème historique des camisards.
Il vous propose également tous les mardis de 8h à 14h à partir, jusqu'au 15 septembre, une balade photographique de 8 km 6 le long de la haute vallée du Luèche. La thématique de ces balades est axée sur la photographie, conseils, échanges sur la passion, prise en main du boîtier pour des débutants, mais comme son nom l'indique, cette balade abordera aussi les thèmes de géologie et de l'histoire industrielle de la mine du Brocard. Voilà. Bah oui, on est en direct, qu'est-ce que tu veux. Voilà. En tout cas, le stage coûte 60€, pardon. Enfin, c'est une espèce de formation photographique. Voilà.
Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
Festival, ça vous dit quelque chose ?
Festival.
Oh, il y a du monde, hein.
Ah, j'aurais bien aimé l'avoir, celui que tu vas dire là, Yannick.
Eh, c'est tombé sur moi. Donc, c'est rendez-vous les 4 et 5 juillet 2020, donc bientôt, pour une nouvelle édition du festival Ennemi BD. Ce sera le seul festival régional à avoir résisté, si l'on peut dire, au virus à quelques jours près pour les dates. Pour sa 13e édition, une vingtaine d'auteurs sont présents, dont Jean-Michel Arroyo, Olivier Berlion, Jean-Charles Crane, Eric Hupsch et Val, et peut-être Franck Margerin. Moi, par contre, j'ai tous les noms.
Yes.
Que je connais pas. Éditeur et auteur indépendant aussi, comme toujours. Saint-Ennemi est prêt à retrouver tous ses fans, ses amis et habitués pour une ambiance conviviale et familiale en respectant des règles précises de circulation et de distanciation. Donc c'est le 4 et 5 juillet.
Et vous dire que je recevrai Val, le dessinateur du Pont de Montvert, et Philippe Cogolion, qui est président du festival Saint-Ennemi BD. Ce sera dans la matinale de mercredi prochain, et j'en suis vraiment ravi, puisque je suis passionné de bande dessinée.
Et en plus, il va y avoir Annecy te faire des reportages, il n'y a pas de direct hein,
ouais.
Cette année.
Non, ils font, pas, ils font pas de conférences cette année, voilà. Voilà. C'était un peu compliqué.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre.
Conférences et rencontre.
Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de passion.
À la salle polyvalente de la Malène, ce samedi 27 juin à 9h, vous avez une conférence, la truffe, le champignon souterrain. Présenter les exigences écologiques des différentes espèces en lien avec la dynamique de la végétation et l'évolution des milieux. Il y aura la démonstration de recherche de truffes blanches sur le terrain avec l'aide d'un chien, puis dégustation des toasts. C'est tout public, mais sur inscription, c'est au 06 58 44 56 98.
Il est exactement 12h49 sur Radio Bartas. Voilà, il nous reste à vous souhaiter un excellent week-end. Profitez-en bien. Merci beaucoup, Yannick.
Bah, c'est avec plaisir.
Véron, on se retrouve lundi.
Ouais, à lundi et bon week-end.
Ouais, profitez-en bien. Et tiens, mais c'est toi qui as choisi le dernier morceau. Qu'est-ce que tu nous as mis ?
Un petit TFN pour changer et un peu différent de ce qu'on écoute d'habitude.
On se quitte avec ça. Allez, bon week-end à toutes et tous. À lundi. Ciao.
Ciao.
clarté morne et glaciale d'un ténébreux soleil d'hiver. Tu blottis comme un animal sous les tôles rouillées du Chrysler. Entre une laverie automatique, entre un tramé et un bug, y'a plus grand chose de magnétique sur la bande-son de ton flipper. J'en triste mon quotidien dans leur normalité baveuse. Prennent leur futur de repingouin au bout de leur graisse alumineuse. Et toi tu ne sais plus où aller, du cul-de-sac en voie sans issue. T'as juste appris à éviter les snipers et les tirs d'obus. L'horreur est humaine, clinique et banale. Enfant de la haine, enfant de la peur. L'horreur est humaine, médico-légal. Enfant de la haine, que ta joie le meurt. Sous les regards torvés, naïteux, des cyborgs au circuit moisi. Cerveau devenu poreux, s'en retourne à la barbarie. Et tu traînes tes tendres allées d'incertitude et d'impuissance. Parfois tu rêves de t'envoler, de mourir par inadvertance. L'horreur est humaine. Un vieux cahier boisseux plein de formules d'un jeu brunoir. À quoi peut ressembler ton spleen, ton désespoir et ton chagrin. Une des étoiles anonymes de la constellation du chien. À quoi peut ressembler ton spleen, ton désespoir et ton chagrin.
Joie de l'homme.